crois que j'écris parce que quand j'étais gosse, on me demandait de me taire. Or, pourquoi je parlais? Pour raconter des histoires, mais ils s'en foutaient, ils voulaient pas entendre d'histoires, donc je les ai écrites.
La source, c'est l'endroit où l'écriture est née. Le lieu où des femmes et des hommes sont devenus romancières et écrivains, le berceau des histoires.
Quoi qu'on ait écrit et quoi qu'on écrive, nous rendons compte à notre façon de notre passage au monde.
La source, Cécile Coulon sur France Inter.
Est-ce que ça vous plairait d'avoir une tribu, une vraie de vraie, un fatras de personnalités réunies ensemble, dans le foutoir des relations humaines, un orchestre de gens qui jouent ses propres partitions, qui n'est ni vraiment la famille, ni uniquement les amis ou les connaissances? Non, c'est autre chose une tribu, ça se constitue avec du temps, de l'amour, des engueulades et des longs silences. C'est une société de gens qui se fichent de la société. Une famille d'enfants qui se moquent des familles, un lien entre des vieilles gueules et des jeunes tronches indéfectibles et puissants. Les tribus, on les raconte, on les vit, on les quitte et on les construit. Au milieu d'elles, il y a des histoires et évidemment des romans. L'une des plus célèbres et sans doute la plus drôle de la littérature française bourdonne autour d'un homme, Benjamin Malocène, aîné des 7 enfants de sa mère qui veille sur les 6 autres, toutes et tous nés d'un père différent. Benjamin Malocène vit entouré de cette marmaille adulte, de leurs propres enfants et d'un bataillon de bras cassés à Belleville, et bien évidemment du brave chien Julius, boule puante, épileptique. L'aîné des Malocène travaille au grand magasin. Il est dans tous les domaines de son existence un bouc émissaire. Mais si la série des Malocène est un succès, un drôle de succès, la langue de Daniel Pénac, d'abord au service des enfants, est surtout une grande porte ouverte à la littérature pour tous et par tous. Un cri de joie pour les histoires, les romans, les films et le théâtre. Il n'est pas possible de sortir d'un texte de Daniel Pénac en ayant la mine basse.
Là, c'est des champignons. Ils sont assez sympathiques.
Ils sont sympas, ouais.
Ouais, ouais. Et puis, ils ne sont pas emmerdants, parce que comme ce sont des mousserons, tu n'as pas besoin de les chercher. Ils viennent à toi, ils sont dans les champs, dans les rondes sorcières.
Daniel Pénac m'a donné rendez-vous dans sa cabane d'écriture, sur le plateau du Vercors, au-delà de Vassieux.
Et ça, les rondes sorcières sont d'une fidélité incroyable.
Je suis arrivée chez lui, accompagnée par ma mère, qui était ce jour-là mon chauffeur. Nous avons dégusté une plâtrée de pâtes au mousseron arrosée d'un vin rouge, descendu plus vite qu'une pente à vélo. Et pendant une heure, nous avons discuté de ce que cela signifie raconter des histoires.
Alors, nous nous trouvons dans une cabane en bois qui a tout l'air d'une cabane de jardin, qui est hexagonale, où, quand je suis ici en été, j'écris, c'est mon bureau. Voilà. Alors, cette cabane a ceci d'involontairement génial, qu'elle a été construite par ma femme et une de ses copines, donc ça n'est pas des professionnels qui ont fait ça. Et comme elles ne sont pas des professionnels, il y a de l'espace entre les planches. Eh bien, cet espace entre les planches, par temps de canicule, fait que cette cabane est toujours tempérée. Parce que le vent, si chaud soit-il, cogne contre la cabane, mais des petits frislis de vent passe dans ces espaces qui crée un microclimat. Voilà où je suis. Et tout ça se trouve dans le sud du Vercors, sur un plateau qui est absolument vide au sud jusqu'aux falaises. Vous ne verrez pas une maison. Et presque vide au nord. Donc je suis au milieu de nulle part.
Est-ce que vous avez besoin d'être au milieu de nulle part pour écrire une histoire, ou est-ce que ça s'est fait au fil du temps ?
Non, c'est dissocié. Quand j'étais gosse, je me rappelle très bien avoir dit à mon frère un jour j'habiterai sur un plateau. Je ne sais pas pourquoi la définition du plateau me convient très bien. On est au-dessus de tout, sans voir nulle part. Du coup, ça devient un ailleurs absolu. Ailleurs dont j'ai besoin pour me retrouver seul, parce que comme par ailleurs, je mène une existence tribale. J'ai deux familles électives. J'ai d'un côté une chier d'enfants adoptants, qui nous ont adoptés, ma femme et moi, depuis 40 ans. Et de l'autre côté, j'ai ma fille et une gigantesque troupe de théâtre international, toutes les nationalités. Bref, ce qui me fait mener une vie de groupe, une vie grégaire, laquelle renforce aussi un besoin de solitude que je satisfais en étant ici.
Si vous deviez décrire cette partie du Vercors à quelqu'un qui n'y est jamais venu, qu'est-ce que vous diriez ?
Je dirais... qu'est-ce que je dirais ? Je dirais... Moi, je dirais, mais viens voir. Viens voir, il n'y a rien à voir. C'est vrai. C'est une montagne où il n'y a rien à voir que le ciel et la terre. Les nuages sont sublimes. Les nuages sont de merveilleux nuages, comme dirait l'autre. Et la terre... Mais il n'y a pas de vue. Enfin, si. Mais la vue, ce n'est rien. C'est-à-dire, il y a... de là où je suis, je vois les sommets qui bordent le tour du... Le plateau, c'est 60 km de long sur 30 de large. Hein. Et c'est bordé par des montagnes qui sont plus hautes que le plateau lui-même. Et la vue est de l'autre côté. Elle n'est pas ici. Donc ici, a priori, il n'y a rien à voir. Mais il y a cette magnifique nature solitaire, quoi. Je dirais, écoute, si t'aimes la solitude, viens.
Le bureau, l'endroit, le mobilier sur lequel vous travaillez, vous écrivez, à quoi ressemble-t-il ?
Alors, c'est une table de la reconstruction. C'est-à-dire que en juillet 44, nos cousins germains ont débarqué ici pour tuer tout le monde. Et de ma maison, qui avait été détruite par cette vague d'assaut, jusqu'à Saint-Martin-en-Vercors, qui se trouve à 20 km de là, il n'y a plus une maison de l'époque. Ils ont tout détruit, absolument tout détruit. Donc les maisons qui étaient ici, c'était des chaumières, c'était des petites maisons de paysans, mais qui étaient modestes en dimension. Et ensuite, donc on a reconstruit. Et on a reconstruit des maisons beaucoup plus fortes, beaucoup, esthétiquement c'est assez moche, mais c'est solide. C'est solide, c'est des proportions généreuses. J'ai donc ici un ami paysan qui s'appelle Robert Mazet, qui avait acheté des terres ici. Et sur ces terres, il y avait cette maison de la reconstruction, cette ferme de la reconstruction, avec la maison d'habitation, la grange, etc. Et il y a 30 ans, je lui ai acheté la maison d'habitation. Et pas un centimètre carré de terrain, ni la grange. Ce sont ses outils de travail, on ne déconne pas avec ça, on n'achète pas. Et ensuite, il a, 30 ans plus tard, pris sa retraite, et j'ai acheté 5 hectares autour et la grange. Donc voilà.
Vous dites on ne déconne pas avec les outils de travail. Quels sont vos outils de travail avec lesquels on ne doit vraiment pas déconner ?
Ne me pique pas mon stylo, Cécile. Ne me pique pas mon stylo et touche pas à mon dico. C'est à moi. Ce sont mes outils de travail.
Les droits imprescriptibles du lecteur. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à haute voix. 10. Le droit de nous taire. Comme un roman, Daniel Pénac.
Avant de commencer à écrire et à publier des livres, quel lecteur vous étiez et quel lecteur vous êtes aujourd'hui.
J'étais un lecteur, un réfugié. J'étais réfugié dans la lecture. J'ai été pensionnaire très longtemps, 5e, 4e, 3e, 2e, 1ère, 1ère, terminale, terminale. C'est 8 ans de prison. Donc de vie collective. Et j'avais déjà, je développais déjà ce même syndrome qu'étant vivant en collectivité, n'étant pas mauvais coucheur, moi je jouais avec mes copains, je sais pas. Mais j'avais ce besoin de retrait, de solitude, et je l'ai trouvé dans les livres.
Est-ce que vous vous souvenez des premiers chocs de lecture?
Oh. Oui, c'était les contes d'Andersen. Il y a l'affreux petit canard, parce que c'était, je savais pas qu'il allait se transformer en cygne au début, et je le plaignais beaucoup, le pauvre petit canard, que tous ses frères moquaient dans leurs plumes blanches et tout, et lui. Et c'était moi, parce qu'on commence tous par le bovarisme, on commence tous par l'identification immédiate et imbécile. Donc ce petit canard, c'était moi. Ça a été le premier choc. Par assimilation, par comparaison, par identification. Et le deuxième, c'était la chèvre de Monsieur Seguin. Probablement pour les mêmes raisons. Et après, il y en a eu un troisième. Ça a été le Matteo Falcone de Mérimée. Mm-hmm. Vous connaissez l'histoire de Matteo Falcone? Je raconterai après.
Vous avez le droit de raconter maintenant.
Alors, Matteo Falcone, c'est l'histoire d'un paysan corse qui s'en va faire une... Il va en ville faire des courses, comme ça. Et il laisse son petit. Et le petit est seul à la maison lorsque passe un bandit, recherché par la police. Le bandit lui dit, les gendarmes me poursuivent, cache-moi, s'il te plaît, cache-moi. Et le petit le cache dans une meule de foin. À ce moment-là, arrivent les gendarmes. Et le capitaine de gendarmerie dit au petit, Matteo dit, tu n'as pas vu un tel? Le gosse dit, non, tu es sûr? Non. Et à ce moment-là, il sort sa montre à gousset. Et il fait tourner la montre à gousset devant l'enfant, et l'enfant, émerveillé par cette montre à gousset, livre le bandit. Et le bandit est emmené par la gendarmerie, et il croise le père sur le chemin du retour, et le bandit crache sur le... par terre. Et le père arrive à la maison, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, ce bandit? Et le père trouve la montre. Il demande à Matteo, qui t'a donné cette montre à terre? Finalement, le gosse craque, avoue tout. Et le père décroche sa carabine qui est sur le mur, agenouille son gosse au pied d'un arbre, lui fait dire ses prières et le tue. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça m'a donné... Je ne sais pas, à 70 ans plus loin, on peut toujours raconter ce qu'on veut, mais en tout cas une certaine défiance contre le monde adulte, disons. Je n'ai pas, à partir de cette lecture, j'ai cessé d'avoir une confiance a priori sur ces adultes qui étaient censés me protéger.
Dans le genre. De la France quand le souviens.
La source. Cécile Coulon.
Nous sommes sur le plateau du Vercors. Ici, toutes les maisons d'époque ont été rasées pendant la Seconde Guerre mondiale, remplacées par de larges fermes robustes. Dans l'une d'elles, Daniel Pénac me raconte l'aventure de l'écriture et de la lecture.
L'envie de lire engendre chez certains l'envie d'écrire. Peut-être par imitation au départ, ou peut-être par jeu. Le premier texte que j'ai écrit, je devais être en cinquième, je faisais la connaissance des Alexandrins, et voilà que je ne sais pas pourquoi j'avais lu L'ours de Tchekhov, et voilà que je traduis ça en alexandrin. Je le transcris en alexandrin. L'autre transition de la lecture à l'écriture, c'était que je lisais dans mon plumard, au dortoir, les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et à l'étude, on n'avait pas le droit de lire. Ah oui, pour des gens de votre génération, c'est absolument inconcevable. Il fut un temps, on interdisait aux gosses de lire. Ben, c'était le cas. On n'avait pas le droit de lire à l'étude, parce qu'à l'étude, on était censé faire les devoirs, et que la lecture n'était absolument pas considérée comme autre chose qu'une distraction.
Aujourd'hui, la lecture, c'est l'étude.
Oui, aujourd'hui, la lecture, c'est l'injonction, il faut lire, ce qui est aussi con que la confiscation des livres. Donc, on nous confisquait nos livres quand on nous surprenait à lire à l'étude, et on ne nous les rendait pas. Donc, on lisait la nuit, dans le dortoir, avec des lampes de poche, sous les... Les pions le savaient, mais ils nous laissaient faire. Et certaines nuits, je lisais Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, par exemple. Évidemment, je m'endormais crevé sur un moment palpitant où les mousquetaires du roi avaient rendez-vous avec les mousquetaires du cardinal pour aller se friter dans une auberge. Etc. Et puis, boum, je m'endors. Arrivé à l'étude, que fais-je ? J'imagine la suite. Et je raconte la bagarre entre les mousquetaires du roi et les mousquetaires. Et après, je comparais avec l'original, qui était évidemment beaucoup mieux. Et je me disais, il est très fort quand même.
Et entre le moment où on écrit une scène qu'on imagine à la suite d'un chapitre de Alexandre Dumas, et le moment où on publie un premier roman qu'on a écrit en entier. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment une telle transformation se passe et est-ce qu'on a conscience qu'elle se passe. Il y a 19 questions dans ma question, mais vous avez le droit à 20 réponses.
C'est même une question encore beaucoup plus hypocrite qu'il n'y paraît, puisque vous connaissez la réponse, puisque vous en êtes de ces gens qui ont écrit et publié, en plus de ça, toute jeune. Alors comme moi, ça s'est passé. J'ai eu un bouquin refusé 17 fois. C'était... Alors, l'histoire de la publication. D'abord, j'ai toujours voulu être publié, c'était écrit, il fallait l'envoyer. Mais ça, et là, il faut me croire sur parole, je ne l'ai jamais souhaité ardemment. Je veux dire, il n'y allait pas de ma vie. Dès que le bouquin commençait à partir, j'ai toujours écrit. Donc je continuais à écrire. Et ça ne m'a jamais désolé, ça m'est arrivé une fois avec ce premier bouquin, mais donc ça ne me désolait pas, je me disais je manque de pratique, de métier. Alors, et ce livre-là qui a été refusé 17 fois, la 17e fois, c'était Claude Durand. Et Claude Durand, qui est aujourd'hui disparu, travaillait au Seuil à l'époque, il m'avait envoyé une lettre où il m'expliquait les raisons de son refus et les raisons de son refus. Touché à tout ce qui clochait dans le livre, hors tout clochait. Tout était nul. Style amphigourique, personnage stéréotypé, chapitre bordélique, etc., etc. Mais le dernier mot, c'était « Mais je sens bien que vous n'arrêterez jamais d'écrire et j'attends donc le suivant. » Et le suivant a été un essai d'anthropologie, je dirais, sur la caserne décrite comme lieu tribal. C'était un bouquin sur le service militaire qui s'intitulait « Tu seras un fils, mon homme », et que le Seuil, donc Claude Durand, a pris, et qui s'est intitulé, l'époque était très sérieuse, on était juste après 68, « Le service militaire au service de qui ?» Bon, ça a été mon premier livre publié.
Ça fait au cours de cette interview trois fois que vous utilisez l'adjectif tribal. Voilà, là on va aller en classe préparatoire. Pourquoi c'est si important pour vous, à la fois dans votre parcours d'écriture ou dans votre vie?
Parce que, bon, en l'espèce, la caserne est un lieu tribal compte tenu des rituels qui ont rythmé la vie. Moi, je n'ai pas regretté mon service militaire parce que c'était une tribu aussi. Or, la vie s'organise en tribu. D'une certaine façon, une classe est une tribu. Un établissement est une tribu par rapport à un autre, etc. Et dans ma vie, pour résister à tout ce qui institutionnellement m'emmerde, j'ai constitué des tribus. J'ai des tribus d'amis. J'ai ma tribu théâtrale, avec des rituels, hein, et surtout avec des constances dans le temps. Ça fait 30 ans que ça dure. C'est pas pour rigoler un soir. Il se trouve que quand la tribu est réussie, le temps l'installe. Et d'ailleurs, plus le temps l'installe, plus les rituels s'affirment, plus le truc devient tribal. Et une des fonctions de la tribu, c'est de résister au doxa. C'est de résister à ce qui n'a pas d'âme. C'est de résister à ce qui est purement fonctionnel. C'est de résister à ce qui est purement institutionnel. C'est de résister à tout ce qui est exagérément normatif. Parce que les tribus dans lesquelles je vis, leurs rituels sont tout à fait farfelus. C'est pas normatif. C'est... Par exemple, dans ma tribu théâtrale, notre signe de reconnaissance, quand quelqu'un entre dans une pièce où les autres se trouvent, il gueule « Uccellacci, Uccellini !» Et tous les autres gueulent « Pier Paolo Pasolini !» Et voilà, c'est un petit monde qui se reconnaît à ça.
Vous faites pas ça chez Gallimard?
Je fais pas ça chez Gaillard.
L'écriture, ça fait 30 ans que ça dure aussi, peut-être un peu plus. Est-ce que...
50 ans,
donc c'est... Est-ce que vos livres forment une tribu? Ou est-ce que chaque ouvrage est une tribu en elle-même?
Non, enfin, chez moi, il y a les Malocènes, donc ça, c'est clair que c'est une tribu. C'est une espèce de famille élective qui se crée comme ça et qui dure depuis... Nous sommes en 2022 et le premier a été publié en 85. Donc ça, c'est une tribu. Ce qu'il a défini, cette tribu, c'est un langage particulier, une écriture particulière. L'écriture des Malocènes ne ressemble pas à l'écriture du Journal d'un corps ou à l'écriture d'anciens malades des hôpitaux de Paris, etc. C'est une écriture particulière avec des petits codes argotiques, de l'argot trop classique pour être compris aujourd'hui, de l'argot inventé par moi par ailleurs, ou de l'argot contemporain d'aujourd'hui. Ça transite pas mal par une rythmique et une écriture argotique. Et par aussi des thèmes qui lui sont particuliers, qui sont particuliers au Malocène. Parmi ces thèmes, il y a le thème de la durée, de la bouc émissarisation, du bouc émissaire professionnel. Enfin, il y a comme ça un certain nombre de thèmes qui sont propres à ce corps tribal-là.
On se les gèle à moins 12. Et pourtant, Belleville bouillonne comme le chaudron du diable. À croire que toute la flicaille de Paris monte à l'assaut. Il en grimpe de la place Voltaire, il en tombe de la place Gambetta, il rapplique de la Nation et de la Goutte d'Or. Sa sirène, sa gyrophare et sa stridule à tout va. La nuit a des éblouissements, Belleville palpite, mais Julius le chien s'en fout. Dans la la demi-obscurité propice au régal canin, Julius le chien lèche une plaque de verglas en forme d'Afrique. Sa langue pendante y a trouvé du délicieux. La ville est l'aliment préféré des chiens. On dirait que dans cette nuit coupante, Belleville règle tous les comptes de son histoire avec la loi. Les matraques pourfendent les impasses. Rades et fourgons jouent les vases communicants. C'est la valse du dealer, c'est la course à l'arabe, c'est le grand méchoui de la flicaille à moustache. À part ça, le quartier reste le même, c'est-à-dire toujours changeant. Ça devient propre, ça devient lisse, ça devient cher. Les immeubles épargnés du vieux Belleville font figure de chicot dans un dentier hollywoodien. La fée carabine, Daniel Pénac.
Inter. La source. Là où naissent les livres.
Je suis avec Daniel Pénac dans une cabane octogonale sur le plateau du Vercors. En janvier prochain, un petit scandale va avoir lieu. Daniel Pénac publie le dernier tome de la série des Malocènes.
Alors le premier, Au bonheur des ogres, a engendré La fée carabine. La fée carabine a engendré La petite marchande de prose. Et dans mon esprit, je devais m'arrêter là. Mais, un peu pour la même raison, je crois que les lecteurs ont aimé ces bouquins, l'écriture de ces livres m'a manqué. Enfin, en tout cas, j'en ai fait un quatrième, qui était Monsieur Malocène. Par désir de retrouver le même type d'écriture. Et puis, ensuite, il y a eu des accidents. Il y a eu une commande du Monde. Ils voulaient une nouvelle. Et cette nouvelle, ça a été Des chrétiens et des morts. Et ensuite, il y a eu une commande du Nouvel Observateur, Claude Perdriel, qui lui aussi voulait un dernier Malocène. Et ça a été Au fruit de la passion. Ensuite, basta. J'ai écrit d'autres choses sur d'autres tons, d'autres livres, des bouquins pédagogiques comme un roman, Chagrin d'école, Le journal d'un corps. Et puis, 25 ans après, mais comme une fringale, m'a repris le désir de trouver cette écriture spécifique au Malocène. Et donc, j'ai écrit les deux derniers, là.
Quand Julius est mort, le premier Julius, la tribu malocène a frisé le suicide collectif. Julius le chien avait échappé à tant de dangers et survécu à tant de crises d'épilepsie que nous avions fini par le croire garanti ad vitam aeternam. Et puis un jour, un matin, Julie et moi l'avons trouvé assis devant notre fenêtre comme s'il était posé là depuis toujours, calcifié dans la nuit. Il était dur et sonnait creux. Aucun frémissement, plus que mort. Relique empaillée, sans puce, sans bave, sans odeur et sans projet. Julius le chien avait vécu. Dieu sait si nous étions des habitués de la faucheuse pourtant. Nous en avons vu mourir du monde et du proche, deuil hautement lacrymo. Mais Julius, assis définitivement sur Paris ce matin-là, c'était, comment dire, notre mort absolue. Monsieur Malocène, Daniel Pénac.
Quand vous dites c'est une fringale, est-ce que c'est de retrouver ces personnages et de continuer à les faire vivre dans la vie des autres, des lecteurs et des lectrices, ou c'est la sensation quand on est en train d'écrire le livre ?
Mais Cécile, les personnages, ce sont des mots. À commencer par leur nom. Un nom propre dans un roman. On peut considérer que l'auteur choisit ses noms propres par un désir plus ou moins conscient de symbolisme, etc. Il y a même des désirs tout à fait inconscients. Quand Flaubert appelle Madame Bovary, va traiter de Madame Bovary, un lecteur même distrait, tout en lisant l'histoire, ne peut absolument pas, d'un point de vue sonore, passer à côté du fait que le mot Bovary, c'est le mariage phonétique du bœuf et de l'ovaire. Et c'est bien l'intention brutale que Flaubert a en écrivant le texte, en décrivant les deux personnages, même si, par ailleurs, il est totalement bouleversé par la mort de l'un et de l'autre. Il n'y a rien de plus déchirant que les pages décrivant le deuil de Charles. Et il n'y a rien de plus horrifiant que l'agonie d'Emma. Et pourtant, au départ, il y a un ricanement. Donc les mots, oui, pardon. Je dis, c'est des mots. Malocène s'appelle Malocène. Pourquoi ? Parce que à l'époque, j'habitais Nice. Il y avait les boulevards Malocéna. Il y a le petit village de Malocène à côté de Nice. J'avais une copine qui s'appelait Malocène, etc. Et je trouvais que la francisation du Malocéna italien, c'était intéressant parce que les Malocéna italiens étaient des avocats de Garibaldi. Donc déjà, ça m'intéressait historiquement. Et puis ensuite, la francisation du mot Malocène, il y a de la légèreté, il y a quelque chose, il y a à la fois de la densité et de la légèreté. Et ensuite, dans le livre, quand apparaît un nom propre, on pourrait penser qu'il apparaît parce que, tiens, je suis copain avec Cécile, donc je vais en appeler un Cécile. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche que, dans le rythme d'une phrase, tout d'un coup, il faut nommer un nouveau participant. Mais seulement à cet endroit précis de la phrase, il te faut deux syllabes, une syllabe sonore et une syllabe plus étouffée. Il te faut que ces syllabes commencent par des dentales et tu trouves l'inspecteur Titus. Mais c'est parce que c'est pas il vient d'où ce Titus ? Il vient d'une nécessité phonétique qui est produite par la phrase elle-même. Et ce qu'il y a de beau, c'est que cette nécessité phonétique produite par la phrase donne un nom et ce nom va donner un personnage. Ce personnage va s'incarner. Parce que, dans un roman, c'est comme les autres disaient, le travelling est immoral. Dans un roman, un personnage qui n'est qu'une fonction, c'est immoral. Si tu crées un personnage uniquement pour qu'il serve à quelque chose, à un moment donné, c'est immoral. Il faut que le lecteur voit et la sensation, même si c'est un flic qui fout une contredanse et que tu verras plus jamais dans le reste du roman, il faut que ce flic qu'il faut une contredanse, et dont le nom procède d'une nécessité phonétique. Il faut quand même qu'il ait une profondeur humaine, qu'un détail montre que c'est quelqu'un, que c'est l'incarnation de quelqu'un, pas juste une fonction. C'est comme dans la vie, tant que tu travailles dans des milieux professionnels où les gens ne sont que des fonctions, tu es en enfer. Si tu n'admets pas que cette fonction peut un jour rater parce que le type a un chagrin d'amour, tu es un des diables de l'enfer.
Dans le répertoire adossé au roman Monsieur Malocène, on peut lire Malocène, petit village près de Nice où le divisionnaire Coudrier a pris sa retraite. À ne pas confondre avec un autre village, Malocène avec un C, situé au pied du mont Ventoux. Malocène Benjamin, fils de sa mère et de père inconnu, aîné de la tribu Malocène, se dit lui-même frère de famille. D'abord contrôleur technique au magasin, au Bonheur des Ogres, puis directeur littéraire aux éditions du Talion. En réalité, bouc émissaire professionnel. Maman, mère de la tribu Malocène. 7 enfants, tous de pères inconnus. Benjamin, Luna, Thérèse, Clara, Jérémy, le petit et Verdun. On ne les a jamais entendus l'appeler autrement que maman. L'auteur ignore donc son prénom. Monsieur Malocène, Daniel Pénac.
Et votre rôle et votre métier de professeur n'était donc pas une fonction?
Alors mon métier de professeur ne se réduisait pas à la fonction pédagogique qui consiste à évaluer le savoir des élèves. Moi j'ai toujours pensé, alors dès le départ, et peut-être d'ailleurs en commençant par réfléchir sur ma propre scolarité, que l'école évaluative est une catastrophe absolue pour un pourcentage important d'élèves. Elle est une bonne chose pour ceux qui, issus de milieux cultivés, privilégiés, qui ont déjà le pouvoir et qui vont le retransmettre très bien, ont intégré les codes. Pour cela, ça marche. Mais il en reste au bas mot 30%, qui ne comprennent pas ces codes. Et bien, l'école à laquelle je crois, mais je n'ai même pas que je crois, que l'école qui est totalement indispensable pour que les élèves n'y meurent pas en tant qu'adultes à venir, elle doit être productive. Elle ne doit pas être uniquement évaluative, elle doit être productive. C'est-à-dire que les gosses doivent faire des choses avec ce qu'ils savent déjà. Monter des pièces de théâtre, faire des films, des interviews, de la photographie, de la musique, de tout ce que vous voulez. Il faut les faire produire. Et c'est assez canaille ma proposition, parce que plus ils produiront, plus ils apprendront. Plus ils produiront, plus ils auront le goût d'apprendre. Moi, la première des choses que j'ai apprises à mes élèves, la troisième année de mon enseignement, j'avais une classe de gosses qui étaient tout à fait réfractaires, qui voulaient absolument rien foutre, je leur ai appris à jouer aux échecs. Nous leur avons appris, avec un collègue professeur de mathématiques, nous avons mis un mois, tous les jours, en maths et en français, on leur apprenait à jouer aux échecs. Et quand ils sont allés battre d'autres classes dans d'autres établissements, etc., ils sont revenus tout heureux. On a battu les latinistes, je me rappelle cette phrase, on a battu les latinistes, monsieur. Eh bien, ils ont commencé à bosser.
Il faut noter que c'est assez rare de battre un latiniste.
Ben, un latiniste qui joue aux échecs est a priori plus fort qu'un nullard qui a toujours eu zéro en dictée. Eh bien non, le nullard a battu le latiniste. Et c'était pas, ils avaient produit quelque chose. Ils avaient produit un savoir jouer à un jeu complexe. Et ils étaient... C'est pas qu'ils étaient fiers. Ils étaient fiers, bien sûr, mais ça, on s'en fout. C'est pas la fierté. C'est que la fierté a fait démarrer un moteur, qui était le moteur d'apprendre, le goût de savoir, le goût de s'enrichir culturellement, le goût de... etc.
Nos mauvais élèves, élèves réputés sans devenir, ne viennent jamais seuls à l'école. C'est un oignon qui entre dans la classe. Quelques couches de chagrin, de peur, d'inquiétude, de rancœur, de colère, d'envie inassouvie, de renoncement furieux, accumulés sur fond de passés honteux, de présents menaçants, de futurs condamnés. Regardez, les voilà qui arrivent, leur corps en devenir et leur famille dans leur sac à dos. Le cours ne peut vraiment commencer qu'une fois le fardeau posé à terre et l'oignon épluché. Difficile d'expliquer cela, mais un seul regard suffit souvent. Une parole bienveillante, un mot d'adulte confiant, clair et stable, pour dissoudre ses chagrins, alléger ses esprits, les installer dans un présent rigoureusement indicatif. Naturellement, le bienfait sera provisoire. L'oignon se recomposera à la sortie et sans doute faudra-t-il recommencer demain. Mais c'est cela, enseigner. C'est recommencer jusqu'à notre nécessaire disparition de professeur. Si nous échouons à installer nos élèves dans l'indicatif présent de notre cours, si notre savoir et le goût de son usage ne prennent pas sur ces garçons et sur ces filles, au sens botanique du verbe, leur existence tanguera sur les fondrières d'un manque indéfini. Bien sûr, nous n'aurons pas été les seuls à creuser ces galeries ou à ne pas avoir su les combler. Mais ces femmes et ces hommes auront tout de même passé une ou plusieurs années de leur jeunesse là, assis en face de nous. Et ce n'est pas rien, une année de scolarité fichue. C'est l'éternité dans un bocal. Chagrin d'école, Daniel Pennec. Daniel Pennec, quel est votre choix musical pour cette émission ?
Mon choix musical, c'est Thomas Fersen. Il y a une vingtaine d'années, plus que ça, peut-être 25. J'ai un de mes amis a débarqué ici à toute allure en disant « Écoute ça, tu connais ce mec-là ?» Il avait un petit magnétophone comme ça à l'époque encore. Et j'entends « Monsieur est un assassin. » Je suis son domestique, tin dan din dan din dan dan, ta da tin tan tan. Et j'ai découvert ce jour-là un de mes chanteurs préférés, quoi.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure. Voyez cet enfant qui bugle. Par lui secouru, et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses. Monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouve sympathique. Monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin sous les nénuphars et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais. Même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur. La 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 la. C'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne, et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouvent sympathique. Monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur. Je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre. Comme comme serviteur et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
Je suis avec Daniel Pénac sur le plateau du Vercors. J'ai toujours voulu poser cette question à un auteur. S'il fallait choisir entre lire et écrire.
Ah oui, non mais alors écoute, s'il faut vraiment répondre à cette question. Monsieur Pénac, s'il fallait choisir entre continuer à écrire et continuer à lire, que choisiriez-vous ? Je te répondrais, arrête de me torturer, parce que de toute façon, un jour je serai contraint à la lecture par perte des mots. C'est ça le vieillissement. Le vieillissement, tu perds des mots, tu perds des facultés, tu perds... Et bon, et évidemment, tout ce que tu lis continue d'être... Bon, tu me diras, il y a probablement aussi un stade où tu comprends plus ce que tu lis.
Ça n'empêche pas d'aimer ce qu'on lit, même si on ne comprend pas.
Voilà. Il faut tirer l'échelle. Non, mais posons le problème autrement. Quand on aime écrire... Quand on sent qu'on est fait pour ça, en gros, pour toute quantité de raisons. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de te censurer en te disant « je ne suis pas Kafka, je ne suis pas Flaubert, je ne suis pas Joyce, je ne suis pas... » Et là, la plume te tombe forcément des mains. Chez moi, la lecture des autres, et pas nécessairement des gigantesques, mais... a toujours produit de l'émerveillement. Aujourd'hui, quand je tombe sur un excellent roman, dans mon émerveillement, il y a quelque chose d'enfantin. Alors, est-ce que je l'ai là ? Est-ce que je l'ai là ? Tiens, prends le sac bleu. Merci. Voilà. Écoute ça. La pension littérature est assez grande et biscornue pour loger tous ceux qui ont envie d'y vivre, n'est-ce pas ? Elle dispose de recoins sombres, de vastes galeries, de salons bourgeois et d'ateliers de peintres, de caves becquétiennes et de greniers gracchiens. Et les cloisons n'y sont que des idées de cloisons. On peut y habiter seul ou en communauté, garder fenêtres ouvertes ou volets clos. On peut avoir des idées précises, voire des théories structurées sur la façon dont il est souhaitable que la maison soit habitée et entretenue, ou refuser de lire le règlement de copropriété. On peut vouloir la transformer en temple, en phare, en maison du peuple, ou en club privé, bien que la porte d'entrée n'ait pas de serrure, en péage de douane, ou en cabane de berger, en bibliothèque centrale ou en laboratoire. Il arrive que le tagueur de l'entresol se castagne avec l'oulipien du troisième, lequel a des envies de pendre le poète lyrique, selon lui, indûment logé à l'étage noble, avec les tripes de l'auteur de best-seller, que tout le monde déteste, mais qui paie les notes de chauffage. Malgré cela, une même certitude habite tous les pensionnaires, celle que ni la municipalité, ni le syndic, ni le marché, ni la police des mœurs, ni l'archevêque, le rabbin ou l'imam, ni le pédagogue, ni la pédagogie nationale, ni le grand conseil des familles n'y ont le moindre droit de remontrance, suggestion, autorisation, sanction, admonestation, encouragement, consultation, juridiction. La pension est un territoire libéré, le seul à vrai dire de toute la cité. Ses portes sont ouvertes à tous et à tout vent. On ne peut lui reprocher d'être un lieu de désordre, puisque c'est sa raison d'être. Jean-Marie Laclaftine.
Daniel Pénac, pour La Source, vous avez choisi de lire cet extrait. Pourquoi ?
Parce que... Ça fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait du bien d'entendre ça.
Pendant toute cette émission, on a parlé d'écriture, de lecture, de professorat et de pension. Vers quoi tend votre écriture aujourd'hui ?
Est-ce qu'elle tend ? Est-ce qu'elle...
Vers quoi voyage-t-elle, si elle voyage ?
Non, je crois que quoi qu'on ait écrit et quoi qu'on écrive, nous rendons compte à notre façon de notre passage au monde. À quoi ressemblait ce monde pendant que nous y passions ? À quoi nous ressemblions nous-mêmes en défilant devant ce paysage ? Bon, il me reste encore quelques centaines de mètres à faire.
67 ans, 3 mois, 2 jours. Samedi 12 janvier 1991. En rentrant de chez les Vernes, dents cassées. Aucun doute, molaire supérieur gauche. Ma langue y va voir, identifie une arête suspecte, revient, y retourne, c'est bien ça, le Mont-Cervin dans ma bouche. Une dent déjà dévitalisée. Blanc de poulet, gratin de courgette, tarte à la myrtille, conversation molle, il n'y avait pourtant pas là de quoi casser une dent. Le voilà, le vrai début de la vieillesse. Cette cassure spontanée. Ongles, cheveux, dents, col du fémur, nous tombons en poudre dans notre sac. La banquise se détache de notre pôle, mais à bas bruit, sans ce hurlement des glaces qui effraie la nuit polaire. Vieillir, c'est assister à ce dégel. Il a bien fondu, disait maman de tel vieux malade. Elle disait aussi, il a bien décollé, et l'enfant que j'étais imaginait un octogénaire prenant son envol au bout d'une piste d'aéroport. Des morts, Violette disait. Un tel est parti. Je me demandais pour où. Journal d'un corps, Daniel Pénac.
Mon rapport à l'écriture va rester le même. C'était un compte-rendu. Un compte-rendu à ma façon, qui n'est pas... C'est pas une cartographie, c'est pas factuel, mais... Je continuerai de raconter le monde tel qu'il me paraît et de m'y raconter tel que je finis d'y passer, quoi. Amen.
C'était La Source, une émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Van Feld, à la technique Gilles Gaillard. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous aux alentours de la gare Montparnasse, en compagnie d'un auteur curieux, voyageur, inspiré par les paysages et les hommes qui les habitent.